Question d'actualité du mardi 16 avril, Julien Corona micro, Daniel Fortin la réalisation et aujourd'hui c'est la chronique de Philippe Labrec. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Comment tu vas aujourd'hui ?
Très bien et vous ?
Donc ça va super bien mais aujourd'hui tu veux nous parler d'actualité. L'actualité assez présente, c'est bien sûr ce qui s'est passé cette fin de semaine avec la riposte iranienne à l'attaque du consulat iranien à Damas par l'armée israélienne, par un bombardement israélien, plutôt l'attaque de l'annexe de ce consulat qui abritait des dignitaires, des gardiens de la Révolution. Une attaque qui a failli embraser la région pour beaucoup de personnes, mais qui finalement a été un peu réduite en cendres par une coalition qui comprenait Israël, des alliés arabes, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis. Revenons un peu sur ça. Tu expliques que c'est une riposte iranienne inéluctable.
Oui, tout à fait. Un peu comme, j'ai envie de dire, l'opération israélienne qui a ciblé l'ambassade ou l'annexe consulaire de l'ambassade à Damas. Était inéluctable aussi dans le sens où ce n'est pas un secret de polichinelle que l'Iran était derrière les attaques du 7 octobre et plus précisément que la garde révolutionnaire était responsable de l'organisation militaire, la planification de la chose, tout comme ils sont souvent ou à peu près toujours derrière toutes les actions par des parties tiers qui prennent place en Irak, en Syrie, au Yémen, par exemple, dans le sud du Liban aussi. On sait très bien qu'en fait, c'est l'Iran et...
Le sponsor, un peu.
Oui, exactement. Et la garde révolutionnaire, c'est un peu le bras armé à l'étranger de l'Iran. Donc, les Iraniens s'y attendaient. À mon avis, les Israéliens ont trouvé l'information à savoir que ces officiers de la garde révolutionnaire allaient se réunir à cet endroit précis, à ce moment précis. Et donc, ont réussi à les frapper, causant des pertes lourdes au sein de la garde révolutionnaire. Et donc, une riposte iranienne à cette attaque israélienne, qui est elle-même une riposte au 7 octobre, comme on y pense, et c'est pour ça qu'il y a une escalade des choses en ce moment, tout ça était inéluctable. C'est une chaîne d'événements où un événement provoque le prochain.
Et c'est même cette riposte, ça faisait un peu une sorte d'orchestration, parce que ce qui paraît, tout le monde avait été notifié trois jours avant de la riposte pour préparer les choses. Il fallait orchestrer, parce que pour l'Iran, au-delà de ce qui s'est passé avec la garde révolutionnaire, parce que quand on prend en compte les pertes pour cette garde révolutionnaire depuis quelques années, on a Soleimani qui était l'ancien grand chef qui a été tué par un bombardement américain sous la présidence Trump. On a ces différents assassinats ciblés que Israël fait depuis quelques temps. Cette garde révolutionnaire, les grands caciques qui sont les grands stratèges se font tous abattre un par un. Donc pour l'Iran, il fallait un peu appuyer sur le détonateur pour un peu réussir à faire passer la pilule auprès du peuple, parce qu'aussi c'est des questions politiques. Le gouvernement iranien en ce moment, on a une sorte de révolte qui dure depuis un an et demi, deux ans, et il faut un peu réaffirmer sa puissance auprès de son peuple, mais aussi de ses partenaires régionaux.
Il faut surtout, oui, en effet, il faut surtout pas paraître faible.
Ouais.
Déjà que le régime, d'après plusieurs analystes, est affaibli de l'interne.
Ouais.
Si en plus de l'externe, le régime devait être contesté de plus en plus ouvertement, j'imagine que les grands stratèges du régime se disent qu'on le régime iranien a toujours eu peur de s'effondrer.
C'est ça.
On peut penser à la logique derrière la bombe nucléaire. C'est pas qu'une arme militaire, c'est aussi une arme stratégique qui garantirait, si on veut, la pérennisation du régime. Donc toutes ces choses, je pense, entrent en jeu. Dans la logique où le régime iranien veut se maintenir, se pérenniser, la frappe avec principalement des drones et des missiles balistiques sur le sol israélien fait partie de cette logique. Je crois qu'on veut démontrer non seulement au peuple iranien, mais aux alliés iraniens que l'Iran reste toujours aussi solide, ce qui veut dire soit à l'interne ou à l'externe, encore une fois. Mais comme vous l'avez mentionné, je crois que l'Iran avait bien sûr planifié que son attaque sur le sol israélien, quand même une première, ou du moins depuis très longtemps, serait une escalade des choses, mais savait en même temps que les dommages allaient être très limités, dans le sens où les Israéliens, avec l'aide des Américains et des Britanniques, en particulier des Français aussi apparemment, allaient pouvoir intercepter une grande partie des missiles et des drones. D'un côté, on était capable de montrer la force, et de l'autre côté, on ouvrait une porte à Israël en leur disant: on lance une pas d'escalade. Vous avez une victoire, nous avons une victoire. Nous sommes tous les deux, entre guillemets, gagnants face à nos partenaires respectifs. Donc, vous pouvez maintenant mettre fin à l'escalade. Reste à voir si Israël va le faire, mais je crois que c'était la logique iranienne dans cette attaque quand même qui démontre une certaine force, mais qui a fait très peu de, je crois qu'il y a eu aucun mort.
Est-ce aucun que mort, donc aucun, à peu près. Si, ouais. Peut-être un enfant ou quelque chose comme ça, mais on n'est pas sûr. Ouais, et tout. Et sinon, il y a eu une base militaire qui a été touchée où il y a juste exact. Eu des blessés. À part ça, tout le reste a été intercepté.
Donc les dommages ont été mineurs, ouais. En gros. Là.
Et on peut voir surtout, c'est que là, Israël réfléchit à peut-être une contre-attaque, mais de l'autre côté, les pays occidentaux ont expliqué, ont fait envoyer le message au gouvernement Netanyahou qu'ils ne supporteraient absolument aucune contre-attaque offensive. Et que seules des actions défensives impliqueraient un soutien à Israël. Donc là, la question, est-ce qu'il va y avoir une escalade ? De l'autre côté, l'Iran a notifié au titre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies que leurs mesures des rétaliations sont terminées et donc à partir de là, ils respectent la, ils se mettent à l'abri du droit international au niveau des mesures de contre-attaque, au niveau des aspects de attaque-contre-attaque. Et donc, ça, ce qui fait dire où serait peut-être une prochaine frappe. On parle, est-ce que ça va être, si Israël décide d'aller plus loin, est-ce que ça va être quelque chose de ciblé encore, mais qui n'impliquerait pas l'Iran ? Et là, c'est la question, est-ce que c'est, on continue avec le Hezbollah ? Mais de l'autre côté, on a aussi des partenaires de réalpolitik, maintenant, que sont les pays arabes, la Jordanie, l'Arabie saoudite, qui expliquent que ce genre de contre-attaque, on doit enfin prendre conscience de la dangerosité de l'Iran, et au lieu de s'en prendre au Hezbollah ou Houthis, il faut enfin s'en prendre à un régime qui est peut-être plus fragile qu'on le pense.
En effet, pour répondre à la première question, à savoir où, quand et comment Israël pourrait répondre, s'il le souhaite, à la dernière attaque iranienne, plusieurs pensent qu'Hezbollah, dans le sud du Liban, serait une cible logique. Pourquoi? Parce qu'on peut les bombarder de loin, donc avec des missiles et des frappes de précision potentiellement viser les têtes penseurs, penseuses de Hezbollah, du moins les officiers les plus hauts gradés au sein de Hezbollah. Et éviter surtout une guerre terrestre. On se rappelle que dans 2006, lorsque Israël avait intervenu sur le terrain dans le sud du Liban, une espèce de guerre hybride, si on peut dire,
ça avait été un bourbier.
Ça avait été un bourbier, exact. Et les Israéliens, particulièrement les militaires, s'en rappellent très bien, veulent éviter la chose à tout prix.
Donc, surtout que le Hezbollah, c'est 100 000 combattants prêts à prendre les armes directement et 50 000 missiles prêts à être armés pour envoyer sur Israël.
Oui, exactement. Ouais. Et comment dire, il n'y a pas de victoire claire si l'armée israélienne voulait mener une opération terrestre dans le sud du Liban. C'est difficile de conclure ou de trouver une façon de transformer cette invasion terrestre en victoire, parce qu'on sait très bien que les Israéliens ne resteront pas dans le sud du Liban de façon permanente. Donc, une opération terrestre mène à une victoire pyrrhique, peut-être, dans ce cas-ci. Donc, les Israéliens pourraient très bien répliquer de façon mitigée, comme j'ai dit, par des bombardements contre l'Hezbollah. Et peut-être que l'Iran déciderait de frapper après autrement, mais encore une fois, d'une façon peut-être moindre qu'une attaque directe sur le sol israélien, mais là, on spécule. Mais ce que vous avez mentionné à propos des pays arabes, sunnites en particulier, c'est que tout ça prend place dans une confrontation millénaire entre les sunnites et les chiites au sein de l'islam, dans le sens qu'une espèce d'association chiite, si on peut dire, menée par l'Iran, qui est la grande puissance chiite, bien sûr, tandis que l'Arabie saoudite, de son côté, et peut-être l'Égypte aussi, mène une espèce de coalition arabo-sunnite. Et les deux, il y a un jeu de pouvoir dans cette région-là. Bien sûr, l'Arabie saoudite est l'ennemi juré de l'Iran, peut-être après l'Occident, mais et vice-versa. Et donc, ce qu'on remarque aujourd'hui maintenant, c'est que, bon, la Jordanie, vous avez mentionné, a absolument laissé faire les interceptions américaines et israéliennes dans son espace aérien. On aurait pu croire qu'ils auraient interdit une telle chose, mais au contraire, ils ont ouvert leur espace aérien. Les Saoudiens ou l'Arabie saoudite ont pas participé directement, mais ont applaudi la chose de toute façon. Et comme vous l'avez dit, ils ont mentionné que maintenant, il fallait peut-être saisir l'occasion pour aller peut-être plus loin. Donc, Israël et les pays arabes sont dans une alliance de fait.
Ouais.
C'est pas une alliance officielle, mais ils ont un ennemi commun. Ça veut pas dire qu'ils s'aiment de façon fraternelle, ouais. Entendons-nous, mais
c'est la réelle politique.
C'est la réelle politique qui prend le dessus, oui.
C'est un retour à la réelle politique. Il y avait dans les autres commentaires de la source saoudienne, c'était expliqué que le 7 octobre a été organisé par l'Iran pour faire capoter les négociations de reconnaissance mutuelle entre Israël et l'Arabie saoudite. Les accords d'Abraham qui devaient mener à la reconnaissance totale, pleine et entière de Israël par l'Arabie saoudite, la normalisation des relations tels que le prince Ben Salman, prince héritier Ben Salman voudrait le faire. Et donc, si on voit ce genre de choses qui rentrent en compte, et ça met en jeu les implications mondiales de cette riposte iranienne à l'attaque israélienne, et donc de toute la suite de tout ce qui se passe depuis le 7 octobre, au-delà des implications. On parle beaucoup de cette guerre, de cette guerre à Gaza, mais cette guerre à Gaza a des implications économiques, avec le détroit d'Hormuz, avec le prix du pétrole, même le bitcoin. On a eu une chute du bitcoin ce week-end à cause de...
Je ne sais pas à quel point c'est lié, par contre. Là,
mais c'est 6%, 15 minutes après l'envoi des premiers drones, on a une chute de 6% du bitcoin sur les marchés. Donc on voit une implication mondiale et économique.
La peur se répand, oui, tout à fait, dans les marchés. Vous avez mentionné le prix du pétrole, je crois que c'est crucial.
Ouais.
En fait, pourquoi est-ce que la Chine, la Russie, les États-Unis sont impliqués directement ou indirectement dans le conflit, c'est que, admettons qu'une guerre ouverte avec l'attente Israël et l'Iran ferme le détroit d'Hormuz, c'est à peu près 40%, si je me rappelle bien, 35% de la production mondiale de pétrole qui passe par là, donc on diminuerait la distribution de pétrole par 30 à 40%. Le prix du baril passe à 200, 300 dollars du jour au lendemain. On a une récession mondiale, donc, qui prend place à peu près simultanément. La Chine, qui est déjà dans une position économique fragile, ont absolument pas intérêt à ce que le prix du pétrole augmente rapidement.
Et la Russie qui survit artificiellement par un prix du pétrole accessible pour pouvoir le revendre sur ses marchés si le baril augmente à partir de là. Même s'ils ont leur propre pétrole, ça aurait des répercussions sur eux aussi.
Ça aurait des répercussions sur tout le monde. Je crois que d'une façon très réaliste, peut-être que les Russes souhaitent que le baril passe à 200 ou 300 dollars parce qu'ils pourraient le vendre très cher.
Ouais.
Mais en réalité, le monde entier en souffrirait. Donc les Russes ne sauveraient pas là, des conséquences négatives d'un prix du baril de pétrole à 200-300 $. Les États-Unis non plus. Là, Biden fait face à une réélection. Donc il n'y a absolument pas intérêt à avoir une crise pétrolière comme dans les années 70. Ça serait la dernière chose qu'il souhaiterait à quelques mois des élections. Donc le monde entier retient son souffle. Je vous dirais que c'est pour ça en grande partie que les États-Unis et les autres puissances mettre beaucoup de pression sur Israël pour qu'Israël accepte la situation comme elle est en ce moment, du moins pour l'instant. On sait très bien que c'est pas la fin de l'histoire, mais c'est pendant quelques mois, pendant un an, pendant quelques années.
Obtenir un aplanissement.
Exactement. Je crois que tous les joueurs principaux, donc Chine, Russie, États-Unis et l'Europe, là, accessoirement, j'ai envie de dire, vont mettre beaucoup de pression sur Israël pour qu'Israël calme ses ardeurs, du moins en termes de réplique potentielle contre l'Iran. Quitte peut-être à laisser le champ libre à Israël dans Gaza aussi. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Là, peut-être qu'Israël va leur dire, mais écoutez, oui, parfait, on calme les choses avec l'Iran, mais vous arrêtez de nous critiquer pour ce qu'on fait à Gaza, pour nos opérations dans la bande de Gaza. Donc, il y a des négociations diplomatiques qui prennent place, à mon avis, en ce moment. Je crois que, comme j'ai dit, le prix du pétrole est une conséquence mondiale et donc est une carte. Donc on parle, mais peut-être relativement peu, mais qui est principale en fait. On peut pas la contourner.
En tout cas, ça me met beaucoup de questions. Surtout au-delà, il nous reste une petite minute. Au-delà de la question, c'est surtout on parle beaucoup d'Israël, mais c'est la question de l'Iran. Est-ce que l'Iran, on a encore la confirmation par rapport à ce qu'elle a fait, même si elle se fait ça dans le cadre des relations internationales et de la charte de l'ONU, on voit encore l'idée d'un Iran pays sponsor du terrorisme utilisant ses différentes milices aussi pour participer à sa réplique, et probablement l'un des grands sponsors, un des instigateurs de troubles dans une région qui est extrêmement importante pour les relations internationales. On a l'impression d'être face à un pays voyou.
Ouais, comment dire, ce qui définit un pays voyou d'un pays entre guillemets légitime est souvent votre perspective, votre point de vue. Donc du point de vue israélien, peut-être saoudien aussi, l'Iran, oui, est un pays qui sponsor le terrorisme, mais du point de vue russe, iranien, chinois, c'est peut-être simplement un pays qui utilise les moyens qu'il a pour faire avancer ses intérêts stratégiques. Je dirais ceci qui peut être peu populaire, mais le fait que l'Iran passe toujours par des tiers parties pour faire avancer ses intérêts stratégiques, aussi violent la chose peut-elle être, évite un conflit généralisé dans la région. Je vous dirais que, encore une fois, on parlait tantôt là, de réduire l'escalade. Imaginez si Israël, et pour une raison ou une autre, l'Arabie saoudite devait s'impliquer dans un conflit direct avec l'Iran. C'est peut-être un début de Troisième Guerre mondiale, ou bien un conflit généralisé dans la région en entier, impliquant les Américains, les Russes et les Chinois. C'est un désastre. Donc, des fois, il faut accepter le moindre mal, aussi pernicieux celui-ci peut-il être. Je ne dis pas que je soutiens les actions de l'Iran dans ce cas-ci. Au contraire,
Mais tout est une question de réelle politique à la fin.
Et toute une question d'éviter un conflit généralisé, à mon avis. Surtout au Moyen-Orient, pour le prix du pétrole, comme j'ai dit, mais surtout parce qu'il y a des intérêts américains, russes et chinois qui, au final, seraient face à face. Mm. Et donc, on risque un conflit qui dépasserait les confins du Moyen-Orient. Et donc, c'est une chose à éviter, à mon avis. Donc, il faut peut-être accepter un moindre mal. Et je crois qu'Israël comprend ça, d'ailleurs. Là.
Et ça rejoint un peu les différents risques de conflit tels qu'ils peuvent réévoluer dans les prochaines années. Tu parlais la semaine dernière lors de ta précédente chronique.
À propos de la stratégie nucléaire, oui, tout à fait, absolument.
Donc, ça rejoint ces éléments. Et ben, merci beaucoup, Philippe Abrek, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de pouvoir t'écouter.
Un plaisir.
Et on se retrouve quand tu veux.
Bien sûr.
Merci à toi.
Au revoir.
C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve demain pour un nouveau numéro avec David Santarossa.